Bon, alors, donc ça fait, je crois que ça fait presque 10 ans que vous existez, et pourtant, peut-être que certains de nos lecteurs ne vous connaissent pas. Tu peux nous en dire plus sur le groupe ?
Écoute, ça fait donc, ouais, c'est ça, ça fait 10 ans, on a sorti 4 albums et 2 EP, on a beaucoup tourné en France et en Europe, et là, on est à 2 jours de la sortie de notre dernier album, qui s'appelle Farewell to the Rain.
D'accord. Le nom est sans doute, il y a une histoire derrière le nom, c'est quoi ? Si on peut, si c'est. Si...
Derrière le nom, c'est le nom que tu veux dire ?
Ouais.
C'est tout con, c'est qu'au début on n'avait pas vraiment de nom de groupe et on a été très vite en studio au bout de 7 semaines et la démo s'appelait 7 semaines et on a décidé de garder ce nom de démo en tant que nom de groupe, quoi. Voilà.
Ah d'accord, il n'y a pas un concept super compliqué derrière ?
Ah non, non, non. Pas du tout.
Pour ce qui concerne les membres du groupe, alors si je comprends bien, vous êtes 2 membres permanents, mais vous passez 4 pour la scène ?
C'est ça, on a eu plusieurs formations. On a été au début du groupe, on était à 2 guitares, ensuite on est passé plus qu'à une seule guitare, ensuite on a intégré un clavier. Et pour l'album, en général, je suis plutôt principal compositeur et avec le batteur, on est les 2 membres fondateurs du groupe. Et pour cet album-là, pour le coup, on a vraiment composé et enregistré que tous les deux. Et pour la scène, bien sûr, on fait appel à des gens pour venir jouer sur scène les morceaux en entier, quoi.
D'accord, mais donc le noyau du groupe, c'est toi et le batteur.
Voilà, c'est ça.
Et après, vous faites appel aux compétences des uns et des autres pour compléter si besoin.
Ouais, exactement.
Tu disais
pour... c'est ce qui s'était passé avec... un album qui s'appelle Seven Weeks Place Dead of Night où pour l'occasion c'était un album un peu concept sur un ciné-concert, on avait fait venir un pote au clavier, donc on a intégré un clavier dans Seven Weeks et au lieu de rester 6 mois 1 an il est resté en fait 4 ans et il a arrêté l'an dernier, à partir de là on s'est retrouvé re à deux avec Jérémy, on a décidé de composer et d'enregistrer l'album tous les deux, voilà.
D'accord, donc ce que tu as l'air de entendre, c'est-à-dire que même pour la compo, ça a été pour la création des chansons, ça a été à géométrie variable selon la composition du groupe ou du moment.
Oui, mais ça reste quand même quelque chose qui vient à 90% de moi et après avec Jérémy, on est vraiment les principaux compositeurs des morceaux.
D'accord. En termes de style, je vois que vous n'aimez pas trop les étiquettes, vous parlez de rock ou voilà. Peut-être plus que parler de style, c'est toujours ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que tu peux me citer quelques groupes desquels vous vous sentez proche ?
Le groupe Seven Weeks, il est né sur l'élan de groupes, d'un élan qui a été généré par des groupes comme Queen of the Stone Age ou ce genre de gros rock. Ce genre de gros rock mélodique, quoi.
Entre Stoner et Desert, enfin c'est Caius, etc., ou pas du tout ?
Oui, c'est ça, ça c'est les racines du groupe. Ouais. Après, on s'est affranchi de tout ça parce que au départ, on faisait comme tout groupe qui débute, on singeait un peu les maîtres, mais avec l'album Dead of Night, donc l'album concept du ciné-concert, c'est là qu'on a vraiment pris mesure de ce qu'on pouvait faire et qu'on pouvait faire quelque chose de plus large. Et on a commencé à s'ouvrir à pas mal de choses, notamment l'utilisation des choses plus ambiantes, plus planantes, quoi. Voilà.
Ouais, tout ce que tu disais, un des grands paliers pour le groupe, c'est l'intégration d'un clavier, alors que c'est plutôt des groupes qui sont très basés sur la guitare.
Oui, mais là, c'était vraiment le clavier était intégré pour habiller le trio, pour qu'il soit plus riche pour le ciné-concert. En fait, ça a rendu plus riche tout le groupe, toute la musique du groupe, y compris les plus vieux morceaux qui avaient été réadaptés. Donc, on a aimé ça et on l'a gardé. Ça nous a permis, sur scène, de plus faire des concerts à la Ramones où pendant 40 minutes, on est au taquet, et de faire des choses plus variées, plus ambiantes et qui sont plus basées sur les contrastes. Ça, on aime bien les contrastes, on aime bien apprendre des contre-pieds, des choses. C'est quelque chose qu'on a essayé de cultiver, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire sur le dernier album, notamment.
D'accord. Si on parle justement un peu du passé, hors le nouveau disque, quoi de neuf pour vous depuis Carnivora ?
Alors Carnivora nous a emmenés sur les routes pendant un an, on a fait une bonne centaine de dates dans toute l'Europe, donc on a pas mal bourlingué. Quand on est rentré de Carnivora, on s'est posé. Et on s'est posé dans un endroit à la campagne hyper cool en plein été. On a posé un EP, 5 titres, plutôt cool, plus cool que ce qu'on faisait d'habitude, un peu blues, un peu folk. mais c'était vraiment EP, c'était quelque chose de passionnel. Et on a tourné 6 mois avec ce disque-là, et puis ensuite on a fait le break, puisque le clavier nous avait dit qu'il arrêterait après cette tournée-là. On a fait le break, et fin 2016, on s'est remis à bosser avec Jérémy sur l'album, voilà, qui vient de sortir.
D'accord, et si justement t'avais à te remémorer toute cette période Carnivora, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui arrive à l'esprit si tu penses à cette période-là? Un concert, quelque chose de marquant?
Il y a le Hellfest, parce que c'était vraiment un gros concert pour nous, c'était vraiment, vraiment une super, super expérience. Et il y a la première tournée de la période Carnivora, où on est parti 17 jours au mois de février en Allemagne de l'Est, République Tchèque, Suisse et tout, et... Bah, comme des bons Français, on est parti sans se soucier de la neige et on a vécu des expériences assez mémorables. Mais voilà, on a beaucoup tourné, on a des souvenirs plein la tête de paysages, de gens qu'on a rencontrés. Ça, c'est une super période. On a vraiment, vraiment une grosse expérience sur ces tournées-là, quoi.
Un petit mot sur donc ce revenir pour l'expérience Hellfest. Pour un groupe français vu de l'intérieur, c'est le kiff comme on l'imagine, ou enfin voilà, comment on voit ça de l'intérieur?
Bah, je pense que c'est exactement comme on peut fantasmer quand on n'est pas musicien, comme on peut fantasmer sur ce qui se passe dans un festival depuis de l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas voir un concert en backstage et tu regardes à côté de toi, t'as Phil Anselmo, tu tournes de l'autre côté, t'as Jason Newsted, et c'est comme ça partout, quoi. Et c'est génial, quoi. Tu vois toutes tes idoles, t'as une telle affiche que bah, tu te balades, tu vois Maiden, tu vois Creator, tu vois Down, tu vois plein de groupes que tu écoutes jeune et tout, parce que c'est quand même assez revival, et puis tu peux découvrir aussi des trucs de Barjo sous la vallée. Voilà, c'est un super... En tant que public, en tant que musicien, tu vis un rêve un peu éveillé quand même, là, quand t'es là-bas, parce que tu croises énormément de gens et tu vois plein de super concerts, et puis il y a quand même une bonne ambiance, quoi.
Vous aviez du jeu quand même assez tôt, en termes de public, il y avait l'aspect marée humaine, vous l'avez quand même pris dans la figure?
Ah, carrément, parce que on est monté sur scène, enfin, on était en train de faire les réglages avant de monter sur scène, donc une demi-heure avant le concert, on était là, bah, ça fait chier, il n'y aura pas grand monde et tout... Parce qu'on ouvrait le premier jour, quoi. Et on monte sur scène, il y avait peut-être 500 personnes sous le chapiteau. À la fin du premier morceau, c'était plein. Il y avait 5000 personnes. Donc ça va très très vite et c'était super. Un super, super souvenir aussi, ça.
Se rendre compte au bout d'un titre qu'on a 5000 personnes devant soi, c'est l'adrénaline qui fait que c'est un bonheur spécifique, ou à un moment on se dit, c'est pas un coup de stress mais violent?
Ni l'un ni l'autre, en fait. On était hyper concentrés sur ce qu'on avait à faire, parce qu'on avait choisi un set particulier pour le Hellfest. Un set pareil, comme je disais tout à l'heure, qui montrait un peu tout ce qu'on pouvait faire, donc qui était très varié. On n'a pas joué la carte les morceaux les plus durs, quoi. On a joué la variété de ce qu'on savait faire. C'est qu'à la fin qu'on s'est vraiment rendu compte, quand on a entendu la clameur des gens, quand on a quitté la scène, là on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait du monde et que ça voulait dire quelque chose quand même. Voilà. Sur le moment, tu te rends pas compte, quand tu fais la zik, t'es à fond dans ce que tu fais. Surtout que nous, à cette période-là, les grosses scènes, on avait fait que du club, donc on se retrouvait sur une grosse scène, on était un peu dans nos petits souliers, quoi. Mais à la fin, par contre, vraiment la clameur, je m'en souviendrai, la clameur de ce public-là, quand on est sorti de scène, c'était génial.
D'accord. Pour ce nouvel album, vous avez déjà entamé une petite tournée avec un premier concert qui a eu lieu à la Laiterie Strasbourg.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, quel a été le ressenti sur cette première, ce début d'un nouveau chapitre, en tout cas sur scène?
Bah écoute, c'était déjà, il y avait une très bonne ambiance, c'était vraiment une bonne soirée, c'était cool, et on était, nous, super contents de jouer des nouveaux morceaux, parce que c'est toujours vachement excitant de faire ça, mais ça passait bien, les gens prenaient bien les nouveaux morceaux, et ça, c'est, ouais, pour un premier concert avec une formation nouvelle, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, on était contents, donc on va pouvoir peaufiner tout ça.
Est-ce que, qu'on veuille ou non, il y a quand même, chaque fois qu'on sort un nouvel album et qu'on se dit, bon, il va falloir qu'on aille en tournée, il y a peut-être à l'arrière du crâne l'inquiétude de dire, on va prendre un mur, quoi.
Toujours, surtout quand il y a des changements de line-up, parce que tu perds tout. Quand t'as beaucoup tourné avec le même groupe, avec la même formation, quand tu montes sur scène, il y a une sorte d'évidence qui. Tu ressens, c'est évident, t'es chez toi, c'est tes habitudes, t'as plus à te soucier de ce que tu joues, tu te soucies juste de faire ton concert et de transmettre un maximum de choses aux gens. Quand t'as une formation plus neuve, tu retombes un peu de ça, t'as pas la sécurité, t'as pas cette espèce de facilité. Donc, mais ça pousse au cul parce que ça, t'es sur la défensive, tu fais très attention à ce que tu joues, tu te donnes à 200% pour que ça passe bien et voilà, il y a des avantages et des inconvénients en fait.
D'accord. Tu expliquais précédemment donc sur cet album-là, vous avez beaucoup travaillé à deux. Est-ce qu'en général vous suivez un peu le même process? Il y en a un de vous qui vient, je sais pas, un rythme ou toi un riff et puis vous construisez autour de ça. Comment se passe la magie créatrice au sein de Seven Weeks?
Ben, comme ça, c'est-à-dire que comme je te disais, on est les principaux. Je suis le principal compositeur. Avec Jérémy, on est vraiment le tandem qui tient le groupe. Et la seule différence, c'est que ce coup-ci, quand on avait une idée, on était que tous les deux pour la jouer. Donc il fallait la maqueter pour qu'on entende le morceau complet. Alors que sur les autres albums, quand il y avait une idée, ben, il suffisait d'appeler le groupe et puis on allait répéter et puis on essayait le morceau tous ensemble. Là, on était obligé d'avoir une idée de ce qu'on faisait, parce qu'à deux, on ne pouvait pas jouer tous les instruments. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup maquetté, il y a un gros travail de pré-prod sur cet album.
D'accord. Quand vous êtes entré en studio avec Francis Cast,
ouais,
à Paris, vous aviez déjà un truc bien chialé, quoi, bien...
Ah oui, oui. Alors, pour nous, l'album, il était prêt, on allait enregistrer comme ça, et tant mieux, et heureusement d'ailleurs... parce que c'est toujours mieux, on est tombé sur un mec comme Francis qui, malgré tout ça, malgré le fait que c'était très arrangé, très produit, lui a réussi à nous amener sur d'autres choses, d'autres arrangements, et ça a renforcé la richesse des morceaux.
Pourquoi avoir fait appel à lui? Alors c'est vrai que maintenant il tourne pas mal au niveau des groupes français, là, il se fait un nom, je pense à Vitesse Grand V, pourquoi lui?
Alors parce qu'il est déjà, pour sa réputation, on sait qu'il fait quand même un gros son. Donc on était intéressé par ça parce qu'on fait quand même une musique assez puissante, même si c'est pas une musique violente, c'est une musique puissante, donc on a besoin quand même d'une bonne production. Et puis on nous l'avait recommandé personnellement, c'est-à-dire que par exemple on connaît bien les gens de Clone, qui ont mixé leur album chez lui, et il nous avait dit quelques mois auparavant, on avait joué avec lui, il avait dit oh, vous devriez aller chez Francis, ça se passerait hyper bien entre lui et vous, c'est sûr et tout. Et au final on l'a eu au téléphone à discuter, et puis il s'est avéré que ouais ça le faisait, et puis une fois sur place on était avec un mec déjà ultra gentil, ultra bien humainement, et puis voilà, en termes de artistique, en termes de réalisation, en termes de production, il a fait beaucoup de propositions qui étaient très très justes et qui étaient super intéressantes, notamment sur le travail des voix et des ambiances guitare, et là-dessus on a fait plein de choses, quoi, et on est très content du son de cet album.
J'y pense maintenant sans avoir vérifié. Pour les précédents, vous aviez toujours un producteur ou vous vous débrouillez tout seul?
Toujours, à part pour le tout début, mais dès All Channels Off, qui est notre premier album, on a eu trois albums produits par François Maigret, qui est le guitariste de No One Is Innocent, et qui est un ami, et d'ailleurs c'est lui qui joue des claviers sur le nouvel album. Et après on a été produit, après ça a été il y a le EP Bent qu'on a fait un peu moins de manière un peu moins produite, c'est vrai, mais c'est un EP, c'est pas un album. Et ton dernier album, c'est Francis qui l'a produit.
Je me suis toujours demandé, alors c'est une question de non musicien et de personne qui a jamais foutu les pieds dans un studio, mais parfois ça me surprend toujours de dire que il y a de nombreux groupes, et d'ailleurs enfin c'est la majorité des cas, qui disent voilà, on a besoin d'avoir une personne extérieure qui va orienter ou proposer. Finalement c'est vous qui connaissez mieux votre musique et c'est vous qui savez où vous voulez aller. J'ai du mal à mesurer clairement la valeur ajoutée.
Nous on sait où on veut aller, mais quand t'es dans un processus de création, un processus de, et que tu es en même temps interprète, c'est comme si tu faisais de la cuisine et que tu mangeais ton plat. Tu vois, à un moment, tu peux pas être totalement objectif tout le temps. Et une personne en studio intervient pour justement mettre le doigt sur quelque chose que nous, on voit plus, soit par habitude, soit parce qu'on est concentré sur autre chose. Quelqu'un, une tierce personne, c'est comme des fois dans un problème particulier. ennuyer quelqu'un qui se prend la tête et tout, il explique la situation à quelqu'un qui n'a pas subi les événements, et cette personne va dire, mais oui d'accord, mais c'est évident qu'il faut que tu fasses ça. Une tierce personne qui n'a pas suivi tout le processus et qui arrive de but en blanc sur le projet, qui voit tout de suite certaines choses que nous on voit plus en tant que musicien, ça c'est le rôle vraiment d'un producteur.
Et vous imaginez peut-être à court ou moyen terme, vous passez de ça ou non ?
Non, parce que justement c'est pour ça qu'on a toujours fait, c'est un peu un but qu'on a, c'est faire la musique tout seul, c'est pas le plus intéressant, et c'est très bien quand il y a quelqu'un qui s'occupe de la produire, c'est un métier en fait, nous on est musicien, on n'est pas producteur.
D'accord. En termes de calendrier, combien en semaine ou mois, comme tu veux, t'évalues la compo, les démos, l'enregistrement, voilà, en termes de calendrier, ça a duré combien de temps ?
On avait fait quelques séances de travail avant, mais le gros de la composition s'est fait sur 3 mois et demi. Et après, l'enregistrement nous a pris 9 jours et le mixage 6 jours. Donc en gros, pour un album, on est sur 4 mois, un peu plus de 4 mois de travail.
L'enregistrement, c'est court, c'est par nécessité économique ou parce que vous bossez vite et bien, ou parce que c'est ultra maquetté et donc vous savez où vous voulez aller ?
Non, c'est par nécessité économique. Par nécessité économique. D'accord. Et pourtant, c'est un des plus longs qu'on a fait. Après, on est aussi, on va vite. Souvent, nous, on va vite. On sait jouer nos parties. On n'a pas besoin de passer du temps là-dessus.
Ouais, vous êtes affûté quand vous arrivez, quoi.
Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé avant, oui.
D'accord.
Okay. Par souci économique, parce qu'on sait que ça peut prendre du temps quand on ne sait pas jouer ses morceaux, ça devient un vrai calvaire, le studio.
Et si je te disais, bon, le financement, tu t'en fous, t'as 3 mois de studio, ça t'intéresse ou pas ?
Ah bah, carrément.
Ouais.
Carrément.
Vous...
Parce que physiquement, c'est chaud, hein, quand même. Moi, j'ai fait la basse, les guitares et le chant. Me taper les 3 à la suite, physiquement, tu fais une bonne journée, hein. Tu sors, t'es bien crevé. Donc, si je peux avoir 3 mois, c'est une bonne chose.
D'accord, ok. Okay. Un aspect, moi, qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est les pochettes, les visuels. Alors, ouais. si on regarde les pochettes, enfin, les 3 albums, en tout cas, des visuels très différents. Le dernier là, il est assez coloré dans des teintes un peu voilà pourpre marron avec avant c'était carnivora, bah déjà le nom était un peu plus agressif et puis il y avait une espèce de figure étrange.
Ouais.
Voilà, c'est le visuel vient de la musique du visuel, enfin c'est quoi le process de création d'un visuel?
Généralement on le confie, c'est pareil, ça on le confie à quelqu'un d'autre. Au début on faisait tout, on produisait le disque, on faisait les pochettes nous-mêmes, tout ça, et au final à un moment, il faut déléguer les choses. Il faut déléguer, il faut avoir un regard extérieur. Et donc, les pochettes, on les délègue. On envoie les textes, on envoie les mots qui nous semblent les plus représentatifs de l'album, des mots, des images et tout. Et après, on confie ça à un graphiste qui va sortir une image qu'on n'aurait pas pensé. Et c'est le cas pour ces albums-là.
Ça a toujours été le même ou vous travaillez des différents
albums? Pour le coup, c'est une personne avec qui on n'avait jamais travaillé. Les 3 albums d'avant, c'est avec la même personne. Et avant, c'est encore avec d'autres personnes. Et le premier, c'est moi qui l'avais fait sur Photoshop, tout seul comme un grand.
Okay. Et là, sur le dernier, vous avez donné aucune instruction? À part.
Comme le titre veut dire l'adieu à l'aube, j'avais donné comme instruction l'aube, le soleil qui se lève. Je sais plus, on avait dû parler du cerf à un moment, je sais plus trop pourquoi. En fait, quand j'ai reçu le visuel, ça me semblait cool, mais je me rappelais plus pourquoi on avait parlé du cerf, mais il y avait sûrement une raison. En tous les cas, la dominance était de parler de l'aube, et c'est pour ça qu'il y a ces couleurs avec ce soleil, et ces 3 soleils qui symbolisent le lever de soleil.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc, mais c'était quoi? Il fait une première proposition, vous échangez, il fait quelques retouches,
enfin... Non, il y a eu beaucoup de propositions, pour qu'on arrive à finalement trouver quelque chose. Il y a des fois où, par exemple, la pochette d'un album comme Dead of Night, il y a eu une proposition et on l'a adoptée tout de suite. Et après, il y a des fois où ça va prendre plus de temps et on va avoir besoin d'affiner. On a quand même une idée, même si on confie, on a quand même une idée de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas.
D'accord. Oui, c'est ça. Éliminer, c'est toujours facile. Après, faut voir ce qu'on veut vraiment.
C'est ça.
Okay.
Ouais.
Donc on a parlé en termes de tournée, l'expérience du Hellfest qui a été quelque chose. Sauf erreur de ma part, vous aviez fait en 2010, vous aviez tourné avec Suicidal Tendencies.
En 2010 et en 2013.
Ou 2013, pardon, c'est moi qui.
Mais on a fait les deux,
Ah. C'était sur plusieurs dates.
Ouais, en 2010, on a fait une date avec Suicidal à l'Élysée Montmartre et deux dates avec Infectious.
Ouais.
Et après, en 2013, on a fait deux dates avec Suicidal à La Rochelle et à Limoges.
Côtoyer des mecs comme ça qui ont énormément de bouteilles. Après, le style est assez différent. Vous n'êtes pas suffisamment hardcore. Côtoyer des mecs comme ça, on apprend au contact.
On apprend à les voir jouer, on apprend à les voir monter sur scène, on apprend à les voir respirer, on apprend tout. De mecs qui ont fait autant de scènes et tout ça, on apprend énormément de choses en les regardant en backstage. Quand on est en public, on voit pas ça. Mais par exemple, quand t'es backstage, tu vois Mac Mir, c'est un mec qui fait des allers-retours sur la scène, de droite à gauche, oui. Ça tout le temps.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois, il vient et il passe derrière le rideau et il regarde sa montre et il repart. Tu vois, ce genre de choses.
Parce que tout est timé. Ça a l'air naturel, mais tout est timé.
Bien sûr que c'est timé, surtout pour un mec comme ça qui est un vrai showman et qui tient son groupe. Il sait à combien de temps ils ont à jouer. Ça, c'est les Américains, parce que aux États-Unis, tu tournes, tu dépasses pas d'une minute l'horaire prévu, sinon tu te fais éclater, quoi.
Oui, c'est ça.
Et ces mecs-là, ils ont cette culture-là de mener le show tout en gardant un œil sur la montre. Pareil, ça, c'est un exemple. Après, moi, je lui ai fait dédicacer des disques, parce que Mac Mir, c'est un mec qui était en poster dans ma chambre, tu vois.
Oui.
Je lui ai fait dédicacer des disques. C'est un mec ultra gentil, ultra avenant, mais très réservé.
Mais par exemple, je sais pas, sur sa préparation de voix, est-ce qu'il fait des vocalises, est-ce qu'il chauffe le.
J'en sais rien.
Physiquement, il s'enferme dans sa loge, tu sais pas?
Non, tu le vois pas, il est même pas dans les loges, il arrive pour le moment du concert, il repart après.
D'accord.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, voilà. Il n'est pas là aux balances, il n'est pas là au repas avec.
Ah oui.
Mais après, c'est un businessman, il gère énormément de choses, je pense qu'il est en train de bosser sur son ordi et tout ça, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et puis, je pense qu'il doit avoir une hygiène de vie qui peut-être surprendre aussi, mais. Positif, je parle.
Il a une super hygiène de vie, ça picole pas, rien du tout. Hein.
Ouais, sinon, il tient pas le choc, quoi.
Bah non, il a presque 60 balais, le bonhomme, quand même, vu comment il se déplace.
D'accord. Ok, donc ça, c'est toujours intéressant. Vous avez tourné avec d'autres groupes qui ont pu te marquer ou t'impressionner du même genre ou...
Autant, non, parce que c'est vraiment un des plus gros groupes en termes d'histoire et de notoriété, mais on a joué avec un groupe qui s'appelle Trigger Finger, qui est un groupe belge.
Oui.
Et tous les soirs, on a pris une claque. Tous les soirs. C'est un groupe ultra constant qui fait des super concerts, ils ont un super son, ils sont très gentils en plus. Vraiment, on a adoré tourner avec eux, c'était vraiment une super expérience.
D'accord. Toujours dans le domaine un peu visuel, vous avez récemment proposé un clip pour January.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est plus un plaisir ou une galère nécessaire?
Non, ça peut vite devenir une galère parce que ça engendre beaucoup de logistique et beaucoup de frais. Et si ça ne te plaît pas, ben là, ça devient un peu pénible. Mais là, pour le coup, le clip me plaît beaucoup et ça s'est fait très simplement. C'est-à-dire que nous, on n'a quasiment rien fait puisqu'on nous voit très peu. Il y a quelques scènes live, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris 2 heures, je crois. Et tout le reste, c'est de la scène, c'est de la. C'est tourné.
Post-prod,
voilà.
Ouais.
Voilà. Enfin, pas post-prod, mais je veux dire, ils ont tourné ça dans leur coin.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
tout ça.
Vous n'étiez pas impacté, ouais.
Voilà.
Mais avec le risque de savoir, tu découvres tu vois le truc final et puis tu peux prendre une claque dans le mauvais sens.
Ouais, mais là, pour le coup, on a pris une claque dans le bon sens. Moi, j'ai vu le clip d'habitude, à chaque fois que j'ai vu nos clips. J'avais tout de suite des choses qui me plaisaient pas à revoir, des choses à faire changer et tout. Là, j'ai vu le clip, j'ai dit, nickel pour moi.
Il y a d'autres, choses dans les tuyaux au niveau clip?
Oui, je pense qu'il y en a un deuxième là, qui est en route pour début 2017.
D'accord. Une petite dernière question avant un petit quiz pour mieux connaître tes goûts et comment tout ça a démarré. Finalement, quels sont, je vais utiliser le vous, en tout cas des 2 ou 4 membres, c'est quoi vos espoirs et attentes là, à moyen et long terme pour 7 Weeks?
Eh ben, écoute, que l'album soit bien reçu par un maximum de gens, qu'on arrive à avoir une vraie. On soit reconnu pour ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de proposer notre musique et pas un album de stoner français ou ce genre de truc comme on a pu nous donner comme nom. Et puis de faire des bonnes dates sur 2017, quoi, des choses avec de jouer dans du monde, voilà. Tout ça, nos souhaits.
Vous avez, simple, en fait. Vous avez déjà des perspectives pour 2017? Bon, là, il y a encore des dates qui arrivent là à court terme.
Il y a quelques dates d'ici la fin d'année, mais le gros des dates est prévu sur 2017, voilà.
D'accord. La source d'info, ça reste Facebook?
Oui, Facebook et le site. Mais ça va arriver pas tout de suite. Là, le tourneur de Bass Prod, ils sont en train de travailler sur la période de 2017. Ils ne travaillent pas sur la fin d'année. Donc, d'accord. Les dates qu'on a, c'est des dates qu'on avait déjà calées, nous. Et voilà, il va y avoir, j'espère, une bonne tournée sur 2017. Voilà.
Ok. Après, donc, pour terminer, juste deux, trois questions sur plus tes goûts perso à toi.
Oui.
C'est toujours difficile, mais j'essaye quand même. Est-ce que tu as un titre préféré de tous les temps?
De tous les temps?
Ouais.
Non, mais je peux t'en donner trois.
Bah vas-y.
Donc il y a Black End de Metallica. Il y a Friends de Led Zepp. Et il y a Starless de King Crimson. Et puis Ace of Spades ou Overkill de Motorhead.
D'accord. C'est très ouvert, hein. Ça va du rock prog au heavy, plus classique, enfin il y a tout, quoi.
Oui, et David Bowie aussi, voilà. Enfin, voilà.
D'accord.
Super.
Ça a été une année difficile pour toi, dis donc, entre Lemmy et Bowie. Ouais.
Ouais, c'était l'enfer. Le mois de janvier, c'était horrible. C'était horrible.
Premier album rock acheté. Enfin, rock, metal, ce que tu veux, mais pas. Voilà.
Acheté, il y a un truc qui s'appelle X. C'est un vieux truc. Et tellement j'y connaissais rien à l'époque que c'était un maxi 45 tours, j'écoutais en 33 tours vu que j'avais la taille d'un 33 tours. Je trouvais ça génial, sauf que forcément c'est pas la bonne vitesse. Mais voilà. Et puis donc ça c'est le premier disque acheté, mais c'est pas resté dans les annales. Et puis sinon le premier truc c'est mon cousin qui m'a filé une cassette d'Overkill de Motorhead. Ça c'est la vraie.
C'est ça l'étincelle, d'accord. Le dernier disque qui t'a accroché l'oreille?
Le dernier Nick Cave.
D'accord. Ah oui, là aussi, c'est assez loin du stoner ou desert rock ou voilà.
Ah oui, mais je m'en fous en fait.
Non, mais bien sûr. Chanson de Seven Weeks que tu aimes le moins?
Attends. Que j'aime le moins, je vais dire Bent.
D'accord.
Le morceau Bent du EP Bent.
D'accord. Encore deux petites questions pour terminer. T'as le choix d'un invité mort ou vivant pour le prochain album, tu prends qui?
Mort ou vivant, je prends, je sais pas, Bowie, mais c'est inimaginable. Donc je vais prendre un truc plus imaginable. Je sais pas, j'aimerais bien faire un featuring avec un ténor, Steve Joshom ou Dave Grohl, des mecs comme ça.
D'accord.
Juste pour ce que ça ferait de rencontrer des mecs comme ça et voir comment ils travaillent, quoi.
Ok. Et dernière chose, t'as la possibilité de te produire sur n'importe quelle scène du monde, n'importe quelle ville, tu irais où?
Dans un endroit où il n'y a jamais eu de concert.
D'accord. Ça va être compliqué parce que Metallica a beaucoup couvert. Hein.
Ouais, mais c'est pas grave, on va quand même les niquer.
Ok.
Non, je sais pas où, mais il y a bien des endroits où il n'y a jamais eu de concert.
Oui, on trouvera, bien sûr, pas de problème. Ben écoute, un grand merci et puis tous mes vœux pour la suite.
Merci beaucoup à toi.
À bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Salut.